Bonjour, ici Arlette Farah
et Fulgence Blas.
Vous écoutez Regards Croisés. Aujourd'hui au programme, eh bien, en ce qui me concerne, moi je vais parler de l'avenue Mont-Royal et d'une invention.
De mon côté, je vais vous parler de la dernière fin de semaine de la semaine italienne de Montréal qui a débuté depuis le 27, ça finit le 23 août.
Wow.
Ouais.
Et nous aurons aujourd'hui comme invitée, comme chroniqueuse, Eva Maizen pour sa chronique des stupidités. À la fois, nous allons apprendre et nous allons rire. Et avant tout ça, nous partons en musique avec la chanson du groupe Bellegarde, 20 juin, 4 avril.
J'aurais pas tendé, yeux pas où elle en pointe. C'est un bon plaçage, c'est un mariage, ménage le chantage. La montée vine, je ne sens plus, mais lui la lobo. Souvent, je me devant, mais derrière, c'est la rage. Si vraiment, je me pour jeune gens, c'est une maladie. Bye, belle noce pour le cas, bouleverser Bill Marie. Pourtant, union, ça t'est doué, bien vu dans la vie. Mariage 20 juin 4 avril, en parole en pile. Vieux mariage pas facile, nous prenons la plaisanterie. Ak 20 juin 4 avril, mamie fait cœur écrit. Vieux mariage pas facile, nous prenons la plaisanterie. Ak 20 juin 4 avril, mamie fait cœur écrit. Dans ma ima chouchou, les galicians mépriteux qui baillent des en noir. Quel boloché, moi-même, moi sans sympathie. Pas dit l'un compliment en beauté, ni en joie. Et à papa, trop, broté qu'elle baille tout concours. Fait tout mépris, fait tout moun, quoi que c'est cool. Fia belle boule qui soudo, belle tichou. Vive l'en repos. Vieux mariage pas facile, nous prenons la plaisanterie. Ak 20 juin 4 avril, mamie fait cœur écrit. Vieux mariage pas facile, nous prenons la plaisanterie. Ak 20 juin 4 avril, mamie fait cœur écrit.
Vous parler d'abord de l'avenue Mont-Royal. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés et qui ont vu l'installation Parade Parasol qui est installée entre les rues Garnier et Fabre, et ce jusqu'au 15 septembre. Donc, Parade Parasol entre immédiatement en dialogue avec les passants, nous dit-on, les incitant sous deux parasols surdimensionnés à échanger, jouer, négocier, partager, tout en glissant sur les rails d'un côté du trottoir à l'autre. Ça doit être sympa, ça, je l'ai pas encore, j'y suis pas encore allée. Ça me tente.
J'ai vu des images à la télé.
T'as vu des images à la télé? Mmh. J'ai envie d'y aller pour être sous le parasol.
Aussi, j'ai hâte d'aller tester ça, moi aussi. Mmh.
Donc, cette installation qui s'inscrit parfaitement dans le travail de Daily tous les jours, dont les œuvres permanentes, temporaires ou itinérantes, visent à renforcer la qualité du tissu social grâce à des expériences collectives. Bien, merci beaucoup. Donc, ils ont toujours reçu beaucoup de prix de reconnaissance et il a été fondé à Montréal en 2010. Et il réalise des expériences collectives pour l'espace public, invitant, ça j'aime beaucoup la phrase, invitant les humains à jouer un rôle critique dans la transformation de leur environnement et à construire des villes plus résilientes. Leur approche se distingue par une méthodologie centrée sur l'humain qui donne lieu à la création d'expériences où la technologie joue un rôle transformateur des communautés. Je vois les photos, je ne l'ai pas vu à la télé, mais je vois les photos. Et ça me donne très envie d'aller y faire un tour.
Oui, ça a même été dit à la télé que ça avait été fait pour une ville aux États-Unis, mais compte tenu de la pandémie.
Oui. Ah oui, c'était Montréal qui en avait hérité.
Voilà, c'est Montréal qui a hérité de ça.
Ou bien qu'il y ait des bonnes choses.
Parce qu'on a été, on a été moins affecté que cette ville en question qui devait recevoir ses parasols sur rail.
D'accord. Ben, j'ai hâte d'aller y faire un tour dessus. Deuxième petite chronique. Parlons science. J'adore, tu me connais, j'adore la créativité. Donc, j'ai lu que des jeunes ingénieurs ont inventé un robot tortue intelligent capable de repérer les déchets en milieu aquatique afin de les collecter dans les ports. Alors, écoute ça. Parce que 75% des tortues marines ingèrent du plastique. Ça, j'ignorais complètement en ce qui me concerne, je ne savais pas ça. Baptiste Jagoury a pensé que ce serait une juste revanche d'avoir un robot ramasse-déchets qui s'inspirerait de cet animal. Cet étudiant, ingénieur de l'ESTACA, qui signifie École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, a travaillé avec 9 autres étudiants pendant un an sur le projet, excusez mon accent, Green Turtle, tortue verte en anglais, un robot poubelle agile dédié aux zones portuaires. Alors, écoute ça, la coque est équipée de larges nageoires, utiles pour se déplacer sur tous les axes. Chez leur modèle marin, les pattes avant du reptile terrien ont évolué en nageoires très efficaces qui leur permettent de faire des pointes de vitesse à 35 km/h quand son équivalent robotique se contentera d'une moyenne de 6 km/h. La Green Turtle aura la taille d'une tortue adulte, 1 mètre de long, 2 mètres de large avec les nageoires, avec la capacité de stocker 50 litres de déchets. L'objectif, c'est d'aller chercher les déchets de façon précise et non massive. Alors, le robot, il va être équipé de sonar, des détections acoustiques, pour localiser les parois des bateaux et pour en détecter les gros et les petits déchets. Et dans le port, le robot va évoluer de manière aléatoire jusqu'à 10 à 20 mètres de profondeur, comme un robot piscine. Et puis, ses capteurs, ils lui permettront de repérer les déchets dans un rayon de 5 mètres. S'il repère un plastique, tic, 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 tic. Il sort du mode nage aléatoire pour entrer dans la phase de track.
Tu as déjà répondu à la question. Je voulais te demander, mais ils ne vont que repérer ces robots, ne vont que repérer du plastique alors.
Tous les déchets, ils se rapprochent du déchet, l'ingurgite, mais tu sais qu'il y a des tonnes de plastique de partout et que c'est la pire chose au monde aujourd'hui. Il ingurgite puis revient à la phase de nage.
Et c'est nous qui les jetons.
Je sais que c'est nous qui les jetons.
Oui.
Une fois que la tortue est pleine, si je puis dire, il revient à son point de départ, il déverse ses déchets, recharge ses batteries et il est reparti. La coque et les nageoires sont en plastique biosourcé et biodégradable pour ne pas constituer un futur déchet. En cas de panne, la Green Turtle devait être facilement repêchable. Le choix de travailler dans des zones portuaires s'est rapidement imposé. Peu de courant et de récifs, faible profondeur, absence de prédateurs, de tortues et de nageurs et surtout des lieux souvent pollués. L'étude théorique est maintenant achevée. Attends. Et les jeunes ingénieurs sont aujourd'hui en pourparlers avec des entreprises pour développer un prototype dès septembre prochain, c'est-à-dire demain, quoi.
Dans une semaine, disons.
Je dis demain, c'est une image. C'est pour dire que c'est pour dans tout
une
de
semaine.
Suite.
Oui, dans une semaine. Ça, c'est clair. C'est la moindre des choses.
Je trouve ça formidable.
Non, mais c'est formidable. Ils sont d'où, là? Ils sont de quelle école supérieure, là? C'est où, ça? C'est à Montréal ou bien c'est quelque part aux États-Unis, en Europe?
C'est en Europe, mais je ne sais pas.
On va trouver ça, on va revenir là-dessus.
Mais c'est quand même une sacrée invention.
Alors, il faut que les compagnies adhèrent à ça, et puis le gouvernement aussi, pas seulement les compagnies privées, mais les compagnies, il faut que le gouvernement adhère à ça.
En attendant, pour qu'il soit. C'est d'abord les entreprises qui vont donner l'élément le plus important, c'est-à-dire l'argent.
Oui.
Pour que ça puisse être construit.
Oui.
Puis après, ce sera vendu au gouvernement, etc. Mais là, il faut d'abord, dans l'État, la construction, l'idée est faite, elle est pleine, elle n'a plus qu'à être créée. Mais pour créer,
il faut du financement.
Bravo.
Oui. Ah ouais, c'est vrai, il faut du financement.
On ne peut pas demander à faire... ça marcherait pour l'entreprise d'hier, du monsieur, pour entreprendre, demander un financement pour construire ça. Je ne sais pas ce que ça...
Ils ne pourront pas donner des millions.
Non, ils ne pourront pas donner des millions.
Oh, ouais. C'est des micro-donateurs.
N'empêche que c'est une invention absolument extraordinaire. Vraiment, ouais. C'est quelque chose qui est très, très fort. Moi, je leur dis bravo. Donc, il s'appelle... le chef du projet, c'est Baptiste Jagoury. Voilà. Donc, il a travaillé avec 9 autres étudiants. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les déchets de façon précise et non massive. Donc, c'est bien parce qu'ils ne vont rien rater.
Ils ne vont rien rater, oui.
Donc, la grosse tortue, se balade. Elle a jusqu'à 5 mètres pour sentir les... 5 mètres pour sentir les déchets, pour sentir les plastiques. Et après, on est bon. C'est quand même extraordinaire.
Non, c'est extraordinaire. Et puis, c'est fabuleux, il faut le dire.
Parce Vive que la vraiment... créativité, quand même.
J'aime bien. Oui, des jeunes gens comme ça qui passent leur temps à l'ordinateur, qui ne font pas que de jouer, mais qui passent leur temps dans les laboratoires en train de trouver.
Ah, mais il y en a plein qui ont
plein
d'idées.
Il y en a plein comme ça qui ont plein d'idées, mais c'est le problème de financement. Mais je pense bien que les gouvernements aussi financent, c'est pas le privé seulement qui finance aussi, Arlette.
On verra.
Ils doivent mettre les mains à la pâte aussi, les gouvernements.
On verra bien.
Ouais, sinon...
Si on en entend parler de cette tortue, c'est que ça a fonctionné.
C'est qu'ils ont reçu du pognon. Oh oui, ça c'est une nouvelle découverte de 2020. Kassi Kalala, nouveau départ. C'est un clin d'œil que je fais à regard croisé, nouveau
oui.
départ.
à nous deux. Voilà, c'est exactement bon. Ça.
Arlette, tu sais, hier, je voulais parler de notre mairesse,
oui,
Valérie Trump, autrice de... auteur de BD. non, je vais dire autrice parce qu'elle aime ça, elle aime les mots féminisés aussi, la mairesse de Montréal. Oui, donc... elle va lancer cet automne une bande dessinée intitulée Simone Simoneau. Tu vois l'affiche là.
C'est elle qui le fait ou on le fait pour elle ou pour c'est sa vie qu'on raconte.
C'est toute une équipe derrière.
C'est toute une équipe derrière.
Voilà, une collaboration avec d'autres personnes qui ont déjà eu des genres de projets comme ça. D'accord. Voilà, d'accord, voilà Simone Simoneau, chronique d'une femme en politique, en BD.
Ben c'est, voilà. c'est bien, ça me fait penser au. Mais aucune comparaison, c'est juste parce que ça me fait un déclic en France quand Jacques Chirac passait dans les guignols de l'info, puis qu'il est devenu éminemment sympathique avec ses histoires.
Oui, ses histoires qu'il racontait.
Oui.
Voilà. Paix à son âme, Jacques Chirac.
Oui, paix à son âme.
Voilà, chronique d'une femme en politique qui génère un regard d'abord intime sur les défis et les surprises qu'offre le grand saut en politique. Ça, c'est la maison d'édition XYZ qui a annoncé ça le mardi matin. Ce mardi passé. Là.
D'accord.
Voilà, donc la BD qui sera lancée le 14 octobre, dans deux mois, bientôt là, 2020, c'est pas 2021, ouais. 2020, sortira en français dans la collection Quai numéro 5 et a été traduite pour être simultanément publiée en anglais chez Drawn Quarterly. Donc le texte de Valérie Plante est illustré par Delphine Côté-Lacroix qui a remporté le prix du gouverneur général en 2019 pour Jack et le temps perdu. De Stéphanie Lapointe.
C'est elle qui va être dessinée
sur oui, la... oui, c'est elle a remporté. C'est elle qui sera... Non, c'est pourquoi j'ai parlé toute une équipe, là.
Oui.
Voilà. La mairesse oui. est très occupée. Hein. Elle peut avoir les idées, les franchins comme ça, mais il faut qu'il y ait une équipe à côté qui puisse mettre tout ça en œuvre, quoi.
On va en apprendre un petit peu plus sur les dessous
oui.
de la mairie.
Donc, Valérie Plante elle-même qui a pris contact avec la jeune illustratrice et il y a 2 ans. Parce qu'elle appréciait beaucoup son travail, apprécie l'éditeur de Keka numéro 5, Tristan Malavoie, qui les a accompagnés dans le processus de création. Voilà. Quand la question de l'éditeur s'est posée, Delphine a dit qu'elle était heureuse de la collaboration, bien sûr, de Jack et le temps. Bon, Valérie a voulu ouais, la rencontrer, et puis qui a commencé comme ça, explique Tristan, qui précise que toutes les rencontres se sont faites en dehors des heures de travail. Faut pas que les gens disent que la mairesse, au lieu de travailler, elle n'a fait que faire des BD.
C'est pas j'étais en train d'y penser, mais je ne l'avais pas dit.
Voilà. C'est ce qui fait que je tenais à lire ça. Voilà. Donc, les textes sont entièrement d'elle. Quoi. C'est vraiment... Et puis, elle a travaillé très fort sur ça. Donc, c'est vraiment un projet qui appartient à toutes les deux. Elle est l'illustratrice. Quoi.
D'accord.
Voilà. Faut pas qu'on dise qu'elle n'a rien fait. C'est comme des gens... politique qui écrit des livres et puis après on les critique. Non, il n'a rien écrit, il n'a fait que dicter ou bien enregistrer pour remettre à une maison d'édition pour sortir le livre. Simone Simoneau, Valérie Plante, Delphine Côté-Lacroix, chronique d'une femme en politique. Elle est belle la photo. Hein.
Oui.
Ouais, pas mal.
C'est pas mal. C'est, oui. c'est écrit comme pour les enfants à l'école.
Oui, donc, les BD...
Oui, mais qui dit BD, il y a beaucoup de BD pour les adultes.
Oh, voilà, oui, ça je vais lire, ça j'attends. J'ai hâte de bien avoir, d'avoir oui. une copie et puis pourquoi pas. Alors, comme je t'avais dit en début d'émission, arrête, c'est la dernière fin de semaine de la semaine italienne de Montréal
oui.
qui a commencé le 7 et qui prend fin le 23, c'est-à-dire le dimanche. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas et qui vont se passer encore, qui se sont passées et qui vont se passer encore. J'ai déjà fait un petit saut, peut-être que demain ou après-demain, je vais faire un petit saut. Là. Et mais pour les spectacles, tout se passe en ligne. Hein. Mmh. Voilà, pandémie oblige, on n'a pas le choix. Donc la semaine italienne d'aujourd'hui, qui va jouer aujourd'hui ? Nicola Ciccone, c'est un artiste montréalais d'origine italienne. Oui, oui, oui. Et cette diffusion sera disponible à partir aujourd'hui à 20h. Et puis ce spectacle sera seulement disponible live et va disparaître à la fin du spectacle. C'est pas comme d'autres spectacles en ligne. Après, on peut aller télécharger ou bien aller écouter. Non, non, non. Ce spectacle de Nicolas, là, quand c'est fini, c'est fini. Donc, si vous n'avez pas la chance de le suivre de 20h à 21h ou bien jusqu'à 22h, n'espérez pas aller retrouver des traces là-bas pour télécharger. C'est fini, là. Donc, Allez, vous allez assister gratuitement au spectacle en vous connectant sur la page web des diffusions de ce festival. Ça s'appelle italfestmontréal.ca/diffusion langue française. Et puis vous allez être en direct avec l'artiste en question. C'est aujourd'hui vendredi 21 à 20h. Et puis, demain samedi, Alexandra D'Alesio et Kevin Bézinet, toujours à la semaine italienne, demain à 20h aussi, toujours en ligne. Alexandra D'Alesio et Kevin Bézinet, ils chanteront ensemble dans le cadre de ce festival, la dernière fin de semaine. Voix et cœur, Alexandra D'Alesio. Oui. Et Kevin Bézinet, chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur. Ouais, c'est les deux là qui vont nous amuser demain à 20h. Et le dimanche, à 23h, toujours sur le plan musical, concert classique, lyrique. Oui, on ne peut pas parler d'Italie sans parler de musique classique quand même. Ouais, un peu, oui, ils sont là. Ce n'est pas seulement les Allemands, les Italiens aussi. Voilà, donc pour clôturer la semaine italienne, laissez-vous, allez-y. Mais de chez vous, ne pensez pas que vous allez aller à la petite Italie et puis trouver un orchestre classique sur place quelque part dans une salle ou bien dans la rue. Non, tout se passe en ligne de votre canapé, devant votre ordinateur ou bien devant votre télévision, pour ceux qui ont accès à Internet à travers leur télévision. Voilà. Et il y a quelque chose que je voulais ajouter, bien sûr. L'heure du compte. Ça, c'est demain. Toujours à la même, au même festival italien, diffusé sur les réseaux sociaux en collaboration avec l'école d'italien Picaï. Vous allez écouter, vous pouvez écouter un conte pour enfants en italien tous les samedis. Ça a commencé depuis le début de l'événement. Demain, c'est le dernier samedi du festival, bien sûr. Que ce soit pour pratiquer votre italien ou faire rêver vos enfants, parce que c'est en italien. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse des contes, pas des italiens, en français ou bien en anglais. Non, c'est en italien. Alors, les bricoleurs d'italien, pour améliorer votre italien, n'hésitez pas, mettez-vous devant votre ordinateur ou bien votre télévision. C'est l'activité idéale d'une fin de semaine en famille. On ne peut pas parler d'Italie sans parler de saveurs. Mangiare. Mangiare, la gastronomie est un incontournable, bien sûr, à la culture. Et aujourd'hui, c'est vendredi, qu'est-ce que je voulais dire? Non, le 22, demain, la pâtisserie. Italienne. C'est les grands classiques de la pâtisserie. Déplacez-vous dans ce cas-là. Ça ne se passe pas en ligne, mais à la petite Italie.
Cannoli.
Ouais, j'ai envie de... Voilà. Maurice me regarde, j'ai envie de faire un petit crochet là-bas. Et puis bon, ben... Alors, tout est bien dit pour le beau festival italien qui se passe chaque année comme ça, à Montréal.
Ça me fait penser, oui, c'est cannoli, c'est ça, les desserts.
Oui.
Ah, c'est trop bon, ça. C'est les absolument cannoli. Délicieux.
Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé.
Je les vois en image, là, tu parles et j'en ai la vision.
Ah, je te donnais l'envie, là, voilà. Restez à l'écoute.
D'aller acheter ça.
On va écouter la prochaine pièce musicale.
Oui.
Et puis
avant, on présente la deuxième demi-heure.
Oui. Cette fois-ci, on va danser un peu avec Evelyne Champagne, King.
King.
Love Goes Down. C'est du classique.
Make it go all the way down. certaine de l'heure. There's no way out, and I can't help the way that I feel. I just can't help the way that I feel. Baby, you make my love come down. Ooh, you make my love come down. Make it come all the way down. Oh, you make my love come down. Inside of you, I'm bound. Ooh, you make my love come down. Baby, you make my love.
Oui. Oh, j'ai déjà présenté l'artiste, Evelyne, Love Goes Down, et Evelyne Champagne. Bon, je reviens rapidement sur le compte, l'heure du compte du festival italien, la semaine italienne. Le compte, c'est demain samedi à 10h, et la pâtisserie, c'est samedi aussi, de 10h30 à 13h30 aussi. C'est 2h.
Alors, allez vite chercher les gâteaux. Oh, dans cette prochaine demi-heure, eh bien, on va voir Eva Meizen. Nous sommes en fin de semaine, nous sommes le vendredi. Vendredi, qui dit vendredi, dit aussi un moment de détente. Donc, ne vous fiez pas à son nom, la chronique des stupidités. Vous allez apprendre plein de choses plus intelligentes que vous ne l'imaginez. Alors, on l'entend tout de suite après la chanson et on la retrouve pour qu'elle nous explique ce qu'elle a envie de nous apprendre dans sa chronique des stupidités. Restez avec nous.
Peut-être prendre ce livre.
On n'est pas né ici, c'est sûr. On est toujours ben gelé, ben dur. Nos côtes sont plus épais que le ciel. On a des tucs à la tête, les mains dans nos mitaines. On a souvent l'air bête du temps, les fins de semaine. Y'a plus rien à faire avec nous autres. On manifeste le fait qu'on est des grands bohèmes, on est comme en exil dans la vie quotidienne. On marche comme dans un grand désert. Y'a des veaux en terre cuite qui nous visitent la nuit. On rêve d'être des idoles, de faire de la musique d'ol. Nul n'est prophète en son pays. C'est-tu pas beau la clique qui se cherche des sidekicks? La gang des mâles commodes est tombée en exode. Ça nous prendrait un grand déluge. Parce que l'ennui se taille à grands coups d'accessoires. On se demande encore, mais qu'est-ce qu'on fait à soir? Comment est-ce qu'il va faire beau demain? Mais l'évidence nous pogne avec un char bourgogne. Tout ça c'est pour le fun, c'est comme un hit and run. Viens en bas dans ma grosse auto. On va brûler les stops, je vais être le top des tops. On va faire des wheelies, je vais me faire arrêter. Je vais envoyer chez la police. Tu vas me trouver cool. Je vais baisser ton siège, mon auto c'est un piège. La police c'était mon ami. Je suis connu partout, je suis comme un gros trou. Ma gang c'est comme une robe qui englobe tout le globe. Enlève ça, ton voisin qui en dessous. Ouais, enlève ça.
faisant le tour du bloc pour tomber sur ma blonde avec un chanteur rock qui faisait du gros necking sale. J'ai tellement souffrir, j'ai écrit une petite tonne avec des mots pour rire et une musique non-non pour faire passer à la radio.
À la radio!
Oh, oh!
La formation Mort de rire, ça remonte aux années 90 quand même, et c'était la pièce Hit and Run.
Bonjour Eva.
Bonjour Arlette.
Bonjour Eva.
Bonjour Fulgence.
Alors Eva, on a, j'étais, comment dirais-je, fait une petite avance en faisant passer ce groupe qui s'appelle Mort de rire. C'était comme une petite dédicace à toi.
Oh, ça c'est gentil.
Alors j'ai prévenu les auditeurs que quand oui. Même, même si ça s'appelait la chronique des stupidités, on allait apprendre des choses intelligentes grâce à toi, à travers la chronique des stupidités.
C'est pas sûr.
Alors on te laisse, c'est à toi.
Alors donc, c'est la chronique des stupidités où j'ai la réponse qui a la question. Aujourd'hui, dans ces temps extrêmement incertains, il m'est venu une réponse toute faite, sans doute liée à ce phénomène terrible qui sidère le monde en ce moment. Bon, d'accord, une réponse est un bien grand mot, puisque comme il se doit, je n'ai pas la question. Arlette, peux-tu me donner la définition de la littérature scientifique ? Bon, je vois bien que tu n'essayes même pas, d'accord.
Non.
D'habitude, je donne la célèbre définition du Larousse, mais il faudrait alors donner en premier lieu la définition de littérature, puis ensuite de scientifique, et ce serait un peu fastidieux. Alors parlons plutôt un peu d'histoire et penchons-nous sur les premières revues scientifiques. Mm-hmm. Parce qu'en fait, elles ont paru à Paris et à Londres en 1665, les premières. Et
1600, ont servi de excuse-moi, 1665 ?
Oui.
Ah, je ne pensais pas que ça faisait si longtemps, oui.
Eh bien, moi non plus. Et puis après, les périodiques se sont multipliés à tel point que seulement 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 1705, il y a certains scientifiques qui commençaient à se plaindre et se moquer du nombre en surnommant leur époque le siècle des journaux. Alors évidemment, les siècles ont passé et le nombre de revues a augmenté en passant par exemple de 100 au 19e siècle à 10 000 au début du 20e siècle. Alors, je ne saurais pas dire quel est le nombre exact de revues à l'heure actuelle, mais étant donné le fameux dilemme du publier ou périr, il est certain que nombre d'articles est vraiment très, très, très important. Alors, ce qui est important à savoir, pour bien comprendre cette chronique extraordinaire, c'est qu'il y a deux sortes de modèles économiques pour les revues. Il y a le modèle traditionnel, et majoritaire, heureusement, de l'abonné-payeur, dans lequel c'est le lecteur qui paye pour voir, et un modèle beaucoup plus récent de l'auteur-payeur qui pousse parfois la revue à publier n'importe quoi pour gagner de l'argent. On appelle ces journaux des revues prédatrices. Bon, voilà que ma chronique est mal emmanchée, car une chronique des stupidités sur la littérature scientifique paraît infaisable, ou en tout cas particulièrement austère, et pourquoi le nier, plutôt soporifique. Mais, heureusement, quelques auteurs et quelques revues sont là pour nous permettre d'égayer le propos. Alors, la revue s'appelle Asian Journal of Medicine and Health. Elle se prétend internationale et dit publier des articles de haute qualité. Alors, ça a donné une idée à quelques chercheurs français assez malicieux en ces temps d'effroyables pandémies. Ils ont proposé à la publication un article heureusement rejeté par toutes les revues sérieuses dont le titre était, tenez-vous bien, "" contrairement aux attentes, SARS-CoV-2 plus létal que les trottinettes, est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution ? Voilà. Voilà le titre pour commencer. Alors, suit ensuite le simple examen du nom des auteurs qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors, parmi les plus farfelus, on trouve Didier Lambrouille, Silvano Trottinetta, Nemo Macron. Alors, évidemment, il faut savoir que Nemo, c'est le chien du président oui. Macron. Et, plus subtil, le Manis Javanica, qui est le nom savant du pangolin. Alors, après, donc, ça sont les auteurs. Et puis, il y a les laboratoires dont sont issus les chercheurs. Et puis, il y en a beaucoup. Mais les plus remarquables sont l'Institut de la science à l'arrache de Neuchâtel, en Suisse. Le collectif Laissons les vendeurs de trottinettes prescrire. Sans oublier le Palais de l'Élysée en France. Après, la suite est à l'avenant, avec une description truffée d'allusions aux déclarations de Didier Raoult, qui prédisait que la Covid-19 ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Il est impossible de lire plus d'une phrase de cet article sans se rendre compte qu'il s'agit d'un énorme canular. Le résumé est à lui-même scientifiquement passionnant, et je t'assure que je n'y ai rien ajouté, en voici quelques lignes. Alors, le contexte de l'étude, c'est des études sur YouTube et Dropbox ont mis en garde contre les dangers potentiellement mortels des trottinettes. Ensuite, le lieu et la durée d'études, qui sont les études 1 et 2, ont été conduites sur la chaise IKEA des auteurs en France le 20 juillet 2020. Et l'étude 3 a été réalisée dans le parking d'une usine abandonnée à Montcuq, région Occitanie, France. Et les résultats de cette étude, donc de cet article scientifique, ne l'oublions pas, Et l'usage massif d'hydroxychloroquine est fortement lié à un très faible niveau d'accident de trottinette, à la fois temporellement, 2020 versus 2019, et spatialement, Marseille-Bouches-du-Rhône versus le reste de la France. Bon. L'article complètement loufoque est à pleurer de rire. Et se termine par des remerciements dont je me dois quand même de vous lire les plus absurdes. Il y a « Nos remerciements vont à Hervé de Maisonneuve pour son combat contre les revues prédatrices, à Violaine Guérin et son équipe qui a payé 55 balles pour être publiée ici, nous permettant de découvrir de nouveaux journaux scientifiques et de bien s'amuser, et bien entendu à Didier Raoult, sans qui ou avec qui nous ne serions rien. »
C'est vrai.
Alors, la question qui se pose est pourquoi et comment cet article a-t-il pu être publié ?
Oui.
Je te pose la question, Arlette. Eh bien, tout simplement pour gagner les 85$ exigés et présenter, je vous rassure, comme un rabais de 89% sur un coût officiel de 500$. Donc, si cette chronique vous a plu, et surtout si vous avez un esprit créatif et des talents d'amuseur, n'hésitez pas à vous en inspirer pour fabriquer un magnifique article délirant qui, si vous en avez les moyens financiers, trouvera peut-être preneur dans une revue peu scrupuleuse et en quête d'argent facile. Vous pourrez ainsi, moyennant finance, réaliser enfin vos rêves et briller dans les dîners en ville en épatant enfin votre entourage.
Dans une revue scientifique.
Bien sûr. Ne me remerciez pas de vous avoir montré le chemin. En ces temps incertains de pandémie, rien de tel qu'une petite chronique des stupidités pour se croire extrêmement intelligent.
Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des gens qui l'ont lu et qui ont cru ?
Je pense que c'est... Non, ça, c'est pas possible.
Non, c'est impossible.
C'est pas pensable. Ah bon. Non, quand on lit l'article, c'est
on,
pas pensable.
On voit
c'est
tout tellement... de suite la supercherie, d'accord.
C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que les autres revues l'ont refusé. Mais ça, c'était pour montrer combien certaines revues dites scientifiques ne sont là que pour l'appât du gain et publient vraiment n'importe quoi. Parce que là, il ne pouvait pas y avoir de doute un seul instant sur la qualité, si on peut parler de qualité de cet article, à part une qualité humoristique.
Eh bien, merci beaucoup. Maurice a trouvé une toune qui va bien avec ce que tu viens de dire. Alors merci, au revoir Eva. Merci pour tout et à bientôt. Bye.
À bientôt. Au revoir. We'll be right back.
le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se goinfrer, que les petits puissent s'engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires râlent, puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paver, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comme ac. Faut que ça saigne bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sentir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonheur mais plus d'amour. Faut que ça saigne.
Catherine Ringer et de Renegade Brass Band, les joyeux bouchers.
C'est vrai que c'était une chanson qui convenait bien. Merci Maurice.
Oui. Alors, je vais parler de quelqu'un que je ne connaissais pas ou bien très peu. Sincèrement, je ne savais pas qu'il avait vécu, qu'il était mort à Montréal, Serge-Emmanuel Jonquet. Il est né en 1951 à Aix-en-Provence, en France bien sûr, d'un père guyanais issu de Boni, descendant d'esclaves africains fugitifs, et d'une mère polonaise. Il a obtenu en 1973 à l'Université de Provence une maîtrise de S-lettres sur le rapport entre l'écrit et l'image dans la bande dessinée. On y revient.
On y revient.
C'est ce qui fait que j'ai tenu à faire cette petite chronique, à parler de lui. La Cinémathèque québécoise est réouverte depuis le même jour que nous avons commencé notre émission Regards croisés, depuis le lundi 3 août. Donc, la présentation sera, c'est-à-dire que Jonquet, c'est-à-dire c'est le nom de famille, Carnet Nomade, projection spéciale ce dimanche 23 à 13h. Pour ceux qui font la grasse matinée jusqu'à 14h, ils vont le rater. Donc la présentation sera suivie d'une table ronde en présence du cinéaste et du narrateur et écrivain Joël Desrosiers, animé par Sophia Larouci, directrice générale des rencontres internationales du documentaire de Montréal, Rythme. Donc c'est un film qui suit Serge-Emmanuel Jonquet, dont je viens de parler, de père guyanais et de mère polonaise, né en France bien sûr, qui a émigré ici au Québec. Et c'est un photographe-écrivain, émigré au Québec pour fuir les silences d'une histoire intime et collective, peuplée d'ombres et de blessures. Il a passé sa courte vie à explorer ses multiples origines. Oui, la vie de Jonquet est racontée à l'ère de ses propres textes, images, talismans, et se déroule en forme chronologique de sa naissance à Aix-en-Provence à sa mort prématurée à Montréal. Rappelons que Carnet Nomade, ce film, a été présenté en première mondiale au Rythme avant de prendre l'affiche. Je dis bien, le 24 juillet dernier à Montréal, Jonquet Carnet Nomade sera également présenté à Vancouver au Latin American Film Festival, VALFF, qui a lieu en ligne du 27 août au 6 septembre. Voilà, donc c'est la mémoire, c'est l'immigration, le métissage. Sous les thèmes de l'œuvre de Serge-Emmanuel Jonquet, Le regard du photographe sur sa ville d'adoption, Montréal, a aussi enrichi sa quête identitaire. Ouais, c'est... Alors, comme je sais que le dimanche, peut-être que je vais me lever un peu tôt. Et ça à 13 heures.
Oui, bah, à 13 heures, te lever un peu tôt quand même. Je veux bien que tu fasses une grasse matinée, mais peut-être qu'à 10 heures, tu seras levé quand même.
Oui, moi, je peux sortir du lit, mais pas être réveillé. Donc, quand je dis me lever tôt, pour que je sois à 13 heures, il faut que je sois à midi et demi, il faut que je sois dans la salle comme tous les autres. Hein.
Est-ce qu'il faut prendre son billet par Internet?
C'est gratuit. Ah. En plus, c'est pas payant.
Non, mais voilà. Faut...
Ouais, il faut réserver, c'est ça aussi. Je vais, voilà. C'est ça, on ne peut plus aller au cinéma maintenant comme avant. Tu arrives, tu prends ton billet et puis vous êtes 200, 150 dans la salle.
Oui, bah, là, c'est pas grave. On passe un petit coup de fil avant pour savoir s'il y a une
pour
place.
Pour savoir s'il y a de la place encore. Voilà. Combien de personnes qui sont autorisées avant de faire le déplacement, quoi.
Oui.
Si toutes les places sont déjà réservées, ça ne vaut pas la peine de se déplacer.
Voilà. On pourra continuer à dormir.
On continue à dormir. Voilà. Donc, ce serait intéressant pour ceux qui n'ont rien prévu pour ce dimanche à 13h. Bon, on n'arrivait pas à 13h. Le film commence à 13h, elle vient un peu plus tôt.
À 13h10, à 13h15.
Voilà, donc ça permet d'aller là comme ça. Je voulais parler un peu de francophonie, mais il y a tellement de trucs à dire sur la francophonie des Amériques, pas de la francophonie en général, l'OIF.
Ah oui.
Non, la francophonie des Amériques qui nous parle vraiment de... C'est le centre, c'est la collaboration pour la diffusion du projet Jamais Trop du Festival International de la Chanson de Granby. Ils font partie de une manière de faire un clin d'œil à la chanson française, à l'écriture, et puis Jamais Trop Tôt, ça fait partie du thème de cette année, faire rayonner les jeunes à travers le Canada, présenté le 24 août à 19h30, ainsi que du spectacle Jamais Trop Tôt, présenté le 26 septembre, cette année bien sûr, 2020.
J'espère bien.
Voilà, et puis ce serait une opportunité au moins à regard croisé de faire découvrir cet organisme que beaucoup de gens ne connaissent pas, la francophonie des Amériques. C'est très, très, très... Je reçois beaucoup de courriers, je suis abonné à leur sur leur liste d'envoi.
Alors,
toutes les activités qui se passent, leur mission, la vision, les valeurs du centre de la francophonie des Amériques.
Il invite quelqu'un bientôt?
Oui, on va essayer de voir. Il faut trouver d'abord, rentrer en contact avec quelqu'un de là-bas pour pouvoir... Voilà, c'est le centre de la francophonie et des Amériques qui contribue à la promotion et la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle au niveau de l'Amérique, en misant sur le refoncement, le renforcement et l'enrichissement des relations, ainsi que sur la complémentarité d'action entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques. Quand on dit des Amériques, c'est Canada, États-Unis et puis tout le reste de l'Amérique, hein, les Caraïbes, tout ça, c'est des Amériques. Oui. Voilà. Donc, ils s'intéressent aussi au développement et à l'épanouissement. Voilà, et favorise les échanges, le partenariat, le développement des réseaux francophones afin de soutenir des projets structurants liés aux enjeux de société. Et ça diffuse aussi l'information concernant diverses thématiques liées toujours à la langue.
Oui.
À la francophonie. La vision du centre.
Pour pas qu'elle se perde.
Voilà, on est entouré de millions d'anglophones. Si on ne tisse pas ces liens... disparaître, c'est trop dit. Il faut pas tirer à l'armiste non plus. Hein. Faut pas. Elle va perdre de valeur d'abord.
Non, mais il y a plus grand pays à part en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en France, ici au Québec, où se parle encore le français.
En Afrique, il y a 14 pays francophones.
C'est 14 beaucoup, pays francophones.
Oui. Et le Congo, la RDC.
C'est pas mal.
Oui, c'est le plus grand pays francophone peuplé. La RDC, la République démocratique du Congo, d'ailleurs. Et non, c'est 14 pays francophones. Non, même si les Africains embrassent plus tard les langues régionales comme langue d'administration, le français va toujours rester d'actualité, quoi, ça c'est sûr.
J'espère.
Voilà. Et la vision, c'est quoi? J'ai parlé de la mission, la vision de cet organisme, que j'apprécie beaucoup, hein, vraiment. La vision du centre de la francophonie des Amériques est celle d'une francophonie en mouvement. Oui, solidaire et inclusive, regroupant les Amériques et dont les liens durables stimulent les échanges et les actions. C'est bien dit, hein?
C'est bien dit.
C'est toutes les infos que j'ai pris sur leur site. Les valeurs, c'est quoi? L'engagement à l'égard de la langue française et des cultures d'expression française. Le centre s'investit pleinement dans le rayonnement et de développement de la francophonie des Amériques afin que celle-ci soit dynamique et porteur d'avenir. Voilà. C'est intéressant, non?
Oui. Sur ce, ça mérite un petit morceau de musique.
Oui.
Pour tout entendre.
On va terminer en beauté avec Peter Mafai et le Kwakanza Wapio. La semaine comme ça.
Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin, c'est la musique, c'est la fête, c'est le week-end.
Oui, voilà, moi je vais voir demain si je peux avoir une place là-bas à la Cinémathèque pour aller voir le film sur Serge Emmanuel Jonguet, dont je parlais à la Cinémathèque à 13h, pourquoi pas.
Comme ça, tu pourras nous en parler la semaine prochaine.
Oui, 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 et c'est une projection spéciale d'ailleurs.
D'accord.
Ouais, c'est... On dit merci à nos auditeurs.
Merci, merci Maurice, merci Fulgence.
La fidélité, ça fait 3 semaines déjà qu'on a des gens fidèles, hein, faut pas l'oublier. Merci Maurice.
Et puis,
notre complice est à la console. Voilà.
Et puis on se retrouve lundi avec. Oui, on a des invités la semaine prochaine. Été, chronique, on va faire. Oui, on va avoir une belle semaine qui s'annonce.
Oui, oui, j'espère que le mardi on aura. Oui, on a des invités, on aura un invité pour nous parler un peu de bénévolat.
Oui.
Bonne fin de semaine à toi.
Bonne fin de semaine à toi également.
Oui.
Bonne fin de semaine, Maurice.
Oui. Ciao.
À bientôt à vous tous.